Confession de théologie, l'Église comme sacrement de salut par le Père Philippe à Rimont, le 28 octobre 95, deuxième cours.
T'es des enfants de Dieu. Alors nous allons voir successivement, rapidement, parce que c'est quelques textes auxquels il faut tout le temps revenir. Ce sont des textes très très riches. Et, j'allais dire, le regard du théologien sur l'Église doit creuser. Ce concile a montré, que parmi toutes les différentes textes et comparaisons, le texte principal, c'est le point de vue du corps mystique. Corinthiens 1, 12, 12. Corinthiens, première épître aux Corinthiens, 12, 12. Facile à retenir. Alors, je vous le dis, parce qu'il faut quand même l'avoir en présence. Comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez que saint Paul cite tout de suite les juifs, hein, c'est très intéressant pour nous à propos de l'œcuménisme, hein, le retour à la source. Ce que je faisais tout à l'heure, c'est quand même capital, c'est révélé, ça. Ça fait partie de notre foi. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas main, je ne suis pas du corps. Hein? C'est le langage de beaucoup, ça. Je ne suis pas le pape, donc j'ai besoin de meilleur. On voit très bien, je ne suis pas évêque, je suis qu'un pauvre serviteur. Si le pied disait, puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, en serait-il moins du corps pour cela? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, en serait-il moins du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier, oui. Où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul et même membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors, un autre texte parallèle à Éphésiens que je cite à la suite. Car c'est lui le Christ qui est notre paix. Lui qui des deux peuples n'en fait qu'un. Oui, l'œcuménisme. Des deux peuples n'en fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Et ça a vite repoussé après. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant abrogé par l'immolation de sa chair la loi des ordonnances avec ses rigoureuses prescriptions, afin de fonder en lui-même les deux dans un seul homme nouveau, en faisant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre unis en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, car par lui nous avons accès arriver jusqu'à cette qualification des théologiens du 16e et même avant, corps mystique. Là, on a éprouvé le besoin de dire ça. Saint Paul avec son réaliste corps. Et ça, c'est beau. Parce que la réalité du corps mystique est plus réelle que la réalité du corps physique. Le réalisme de la grâce est plus que le réalisme de l'âme. C'est sûr. Le réalisme divin, l'éternité. Évidemment, pour notre sensibilité, le corps possède une unité visible que je vois, alors que l'Église n'a pas cette visibilité. C'est un mystère, l'Église, qui m'échappe, mais qui est présent. Alors, que représente cette analogie ? Si on y réfléchit un instant, dans le corps humain, il y a une unité substantielle de vie. Unité substantielle de vie, c'est sûr. Ma main vit d'une unité substantielle par rapport à mon pied. Mon œil vit d'une unité substantielle analogue à l'ouïe. C'est cette unité si forte, mais cette unité qui s'impose. Ma main n'a pas choisi d'être avec mon pied. Quelquefois, quand je regarde la main de mon voisin, je dis, tiens, elle est beaucoup plus belle que la mienne. Je pourrais peut-être la mettre avec... Alors, avec le pied, ce ne serait plus tout à fait la même chose. Ça fait partie des jalousies, vous voyez. Et ça fait partie des rivalités. On fait ça, c'est aussi gros que ça. Alors on coupe la main pour mettre la main du voisin, en oubliant que notre pied, c'est notre pied qui a un petit crédit avec notre main. Unité substantielle. Unité qui n'est pas une unité de choix, qui s'impose. Unité qui provient de l'âme, c'est sûr. Unité du corps, c'est un corps vivant qui provient de l'âme. Et provenant de l'âme, elle s'impose au corps. Mon corps est un grâce à mon âme. Et l'unité vitale, donc l'unité souple, il ne faut pas l'oublier, et organique. Respectant la diversité. Et c'est ce qui fait la perfection du corps. C'est qu'il y a une grande diversité. Une très grande diversité. On comprend que le corps a été façonné par Dieu. Comme un chef-d'œuvre. Une œuvre merveilleuse. Donc, si je prends cette première comparaison, on voit que on veut souligner qu'entre chacun d'entre nous et le Christ, il y a une unité substantielle. Unité substantielle et unité qui dépasse la diversité. La diversité est très grande, mais elle est dépassée par quelque chose qui anime le corps et qui fait que tous ont la même finalité. Et dans cette vie substantielle et unique, quelque chose d'un qui s'impose. Et que la rivalité des membres à l'égard d'un membre à l'égard d'un autre membre raison est très simple. Elle montre diversité, unité substantielle, diversité de fonction et unité substantielle de vie. Unité cachée, diversité visible des fonctions. Ça se voit tout de suite. Que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout chrétien peut dire ça. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Ni homme, ni femme. Car vous êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Una persona dans le Christ Jésus. Mais alors, c'est ça qui est intéressant à voir. On essaiera plus tard. D'avoir unité du corps, unité de la personne. Parce qu'au point de vue philosophique, le corps, c'est par où nous sommes un individu. Et l'âme spirituelle par laquelle nous sommes une personne. Et vous voyez qu'ici, les deux sont liés. Le dernier texte que je vous ai lu, c'est Galates 3, 27, 28. Donc, c'est bien le corps en tant qu'unité vitale. Et cette unité vitale vient du Christ, qui est tête. Dans le corps, le Christ a une place unique, il est tête. Et la tête exprime justement que tout, d'une certaine manière, vient de la tête et tout retourne à la tête. Autre analogie totalement différente. Cette unité dans le Christ réclame notre coopération libre. Alors je crois que ça, c'est très important à voir. C'est l'autre comparaison. Ce n'est plus l'unité nécessaire, organique du corps vivant, unité substantielle. Cette unité libre de choix d'amour qui existe entre l'époux et l'épouse. C'est quand même tout à fait différent. Et l'avantage de cette seconde comparaison, c'est que cette seconde comparaison implique cette coopération. La première l'implique aussi, mais pas d'une façon libre. C'est une coopération puisque l'œil est pour le corps, la main est pour le corps, l'ouïe est pour le corps, et la révolte consiste à se séparer de cette unité et chacun d'aller dans son sens. Toutes les hérésies, c'est une partie qui se considère comme unique et se sépare des autres, considérant les autres comme pourris. Alors, on aime mieux faire l'opération. On se sépare. Mais si je regarde la dernière séparation qui a eu lieu après le concile, c'est bien ça. Ce n'est pas la tradition. Donc, séparons-nous. On se sépare du corps, de l'unité du corps. Tandis qu'ici, on voit que cette unité, elle se fait tout le temps. Elle progresse. Puisqu'elle est libre. Et qu'elle repose sur l'amour. Tandis que l'unité du corps, des membres du corps, elle s'est développée à partir de l'embryon. C'est sûr. Mais une fois qu'elle est faite, elle demeure. Elle progresse d'une façon harmonieuse, proportionnelle. Mais elle demeure. Pour exprimer à la fois cette qualité de liberté d'amour qui caractérise les rapports de vie reliant les chrétiens et le Christ, et l'autonomie personnelle que garde le chrétien tout en étant membre du corps du Christ, saint Paul se sert de cette nouvelle comparaison des liens qui unissent l'épouse et l'époux. Marie, donc Éphésiens 5, 25-28, on connaît ça, anciennement c'était la seule épître qu'on avait pour le mariage. Faut pas l'oublier, non. Maintenant, grâce à Dieu, on en a plusieurs. Parce que quelquefois, ça chiffonnait les gens qui écoutaient ça pour la première fois. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça? C'est pas du tout le reste. Alors, on prenait ça comme un absolu. Et c'est vrai que si vous prenez ça comme un absolu, c'est pas très commode. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc la fin du mariage, c'est la croix. Je prends bien ça, c'est la croix, et c'est la croix acceptée volontairement afin de la sanctifier en la purifiant par le bain de l'eau et de la parole qui l'accompagne. Ainsi s'est-il préparé une église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et irréprochable. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mais aujourd'hui, avec l'inculturation, ces textes ne sont pas toujours commodes à être interprétés. Mais bien comprendre, ils sont vrais, ils sont justes. Mais c'est une partie, c'est un texte à côté d'autres textes. Il ne s'agit pas de mettre ça comme un absolu. Mais il y a quelque chose de très grand à découvrir. Entre l'épouse et l'époux, existe une alliance d'amour qui repose sur un libre choix. À tel point que s'il n'y a pas ce libre choix, le mariage est invalide. Tellement c'est important, cette liberté du choix qui fait partie de l'union entre l'époux et l'épouse. Or, l'analogie porte là-dessus. Vous voyez ? Donc, c'est la différence entre une secte et l'Église. L'Église ne s'impose jamais. C'est pour ça que le Christ ressuscité n'est pas apparu à Pilate ou à l'épouse de Pilate pour compléter son rêve, n'est pas apparu entendu plus d'une fois. Mais c'est pas une... Il est apparu uniquement à des amis, donc un a priori. Donc ces apparitions ne signifient rien du tout. Ils se sont donné le mot. S'il est apparu à Pilate, s'il était apparu au grand prêtre, ça aurait été très bien. Et c'est vrai que c'est très curieux. Voyez, Jésus fait une très mauvaise apologétique. On aurait dû lui donner un conseil. Pour une bonne apologétique, il fallait apparaître au grand prêtre. Et les grands prêtres auraient été tout penauds en disant on s'est trompé, ils auraient pleuré. Et Jésus aurait dû apparaître à Pilate ou à César. C'est pas plus difficile. En racontant à César ce qui s'était passé à Jérusalem. Ça, ça aurait été une vraie apologétique. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est le mystère de l'Église au début, ça. L'Église ne s'impose pas. Elle ne peut pas s'imposer. Mais une fiancée qui s'imposerait pendant le temps des fiançailles, le fiancé comprendrait qu'il ne faut pas aller plus loin. Qu'est-ce que ce sera après ? Il y a un choix libre. Et si on peut prouver que ce choix n'a pas été libre, l'Église montre qu'il n'y a pas de mariage. Et l'Église est farouche là-dessus. Du fulcan. C'est une circonstance très très particulière qui fait que tout le monde aurait dit mais non, non, il ne faut surtout pas revenir là-dessus. Le choix libre, un choix tel que pour s'unir à son épouse, l'homme est capable de se séparer des êtres qui lui sont les plus chers. L'homme quittera son père et sa mère. Hein? Donc quand l'homme reste fixé à sa mère et passé à son épouse, ce qui arrive de temps en temps, hein? On m'a encore cité un goy hier. Le mariage n'est pas selon le regard du Christ. Et les parents font une faute grave. Un peut-être inconsciente. La mère qui ne peut pas se séparer de son fils. Je le connais, je l'ai engendré, je le connais. Tandis qu'elle, la malotrue qui vient, n'est-ce pas, complètement en dehors. Elle ne le connaît pas du tout, elle est séduite par lui, c'est pas ça du tout, ils ne se connaissent pas du tout. C'est moi qui dois donner les conseils, et tout doit passer par moi. Ça existe, ces choses-là. Vous voyez, et Jésus, du moins, l'Écriture dit ça. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Cette alliance est si intime que de deux, ils deviendront une seule chair. C'est ce que saint Paul dit. Ce mystère est grand. Je veux dire, par rapport au Christ et à l'Église. Le sacrement, l'alliance de l'époux et de l'épouse est présentée là comme ce qui conduit le plus immédiatement au grand mystère du Christ et de l'Église. Donc, voyez, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que la comparaison du corps, à première vue, est beaucoup plus forte. Elle est massive. La comparaison que prend ici saint Paul est spirituelle. Elle va beaucoup plus loin. Puisque l'Église est une grâce au choix du Christ, ce que je vous disais tout à l'heure. Le choix des apôtres et le choix de chacun d'entre nous. On est choisi, élu, choisi, prédestiné par le Christ. Et c'est ce choix qui fait l'unité. Et cette unité, on en est responsable. du corps et des membres, on n'est pas responsable. On l'a subi. Ma main subit d'être unie à mon pied. Jamais consenti. Elle le constate. Tandis qu'au contraire, entre l'époux et l'épouse, c'est un choix libre, vécu, et de plus en plus vécu. Et vécu de la manière toujours plus intense. Et on montre que ce choix, ils seront deux dans une seule chair. Donc, cette dualité se résorbe dans l'unité. Et l'unité d'amour. Entre amis, et l'époux et l'épouse, c'est une amitié particulièrement grande, particulièrement forte. Les deux amis, idem velle, le même vouloir. Donc, ils n'ont pas deux voies différentes. Oui, ça rejoint ce que je vous rappelais. Cette parole que le pape actuel a dit dans sa première encyclique, que la mission de l'Église, c'est la mission du Christ. C'est ça. Oui, c'est intéressant, parce que la première comparaison montre que la tête a une autre fonction que la main. Alors on pourrait dire, mais alors très bien, mais l'Église a une autre fonction. L'Église, c'est les pieds. Jésus n'a fait que passer rapidement, il n'a pas pu s'occuper de tout le point de vue temporel. Alors l'Église doit s'occuper du point de vue temporel, c'est absolument nécessaire, puisqu'elle est les pieds. Elle doit toucher le sol tout le temps. Ah, attention. Au-delà de la diversité des fonctions, il y a l'unité d'amour. Il y a une unité d'amour. Et cette unité d'amour, c'est elle qui est responsable de l'unité. Parce qu'elle est libre. Et elle est au-delà des fonctions. Et des charges. Différentes. Et alors, c'est ça qui est très beau, vous voyez. Ces deux comparaisons, chacune exprime quelque chose de l'unité de l'Église. Mais il ne faut surtout pas faire un parallélisme matériel, univoque, on dirait. Parce qu'alors ça s'exclut. L'unité du corps exclut l'unité d'amour, d'amitié, de l'époux et de l'épouse. C'est sûr. Mais dépasse la diversité par la même finalité, le même amour. Et cet amour est libre. Je vous cite cette dernière parole, Éphésiens 2, 4, 7. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, et alors que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux en Jésus-Christ afin de cet amour qui nous unit au Christ nous unit entre nous. Nous avons tous fait la même option radicale, l'option de toute notre vie. Nous avons choisi Jésus pour être l'époux au sens le plus fort. Et donc, si nous avons tous fait cette même option, entre nous, il y a cette unité fondamentale dans ce choix libre. C'est important, ça, que c'est déjà présent, voyez, dans cette unité. Ceci pour que nous comprenions mieux le dépassement du mystère. Autrement dit, ces comparaisons nous aident, mais il faut les dépasser. Les dépasser, c'est de voir que l'unité qui existe entre nous et le Christ, l'unité qui doit exister dans l'Église, est infiniment plus grande que l'unité qui existe dans le corps humain, entre les différents membres et la tête. L'unité qui existe entre l'époux et l'épouse, qui est si belle, si profonde, est complètement dépassée, est infiniment dépassée par l'unité qui existe entre le Christ et notre option, notre choix du Christ. Et je dis bien infiniment, puisqu'on passe de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel et divin. Mais il y a un lien de l'ordre surnaturel avec l'ordre naturel. Il y a un lien tel que l'ordre naturel visible mène à entrer